Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis toujours derrière le petit micro rouge des studios d'Urocast de Radio Grand Ciel. Roland Richard enregistre cette émission et la réalisera pour vous, naturellement. C'est un petit peu particulier parce que comme je l'ai fait pour les législatives et les municipales, j'enregistre une série d'émissions pour les élections présidentielles. Et je recevrai donc tous les représentants locaux des candidats qui accepteront mon invitation dans les studios naturellement. Je reçois aujourd'hui Maxime David pour La République en marche d'Emmanuel Macron. Bonjour Maxime.
Bonjour Marie-France.
Merci de me rejoindre. Alors vous êtes conseiller communautaire de Dreux, secrétaire général du groupe Centre démocrate, républicain et citoyen de la région Centre-Val-de-Loire et enfin conseiller municipal.
À Dreux, absolument.
Vous cumulez toutes ces fonctions ?
Je cumule ces fonctions qui sont à la fois électives et puis professionnelles.
Professionnelles pour ?
Le secrétariat général des élus régionaux.
D'accord. Votre liste, le Renouveau Drouet, était soutenue par La République En Marche et le Modem. Oui. Vous êtes membre de La République En Marche ?
Je suis membre de La République En Marche depuis ses débuts et plus que jamais.
Donc, Maxime, je suppose que vous attendez la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron avec impatience.
Avec impatience, c'est le mot.
On va faire comme s'il se présentait, puisque de toute façon, il faut bien commencer par quelque chose, évidemment. Et je sais qu'à défaut de cette déclaration, jusqu'à maintenant, l'exercice que je vous demande aujourd'hui est assez difficile, mais je vous remercie tout de même d'être venu, malgré
plaisir.
Tout cela. Je vous propose donc d'abord de me parler de ce que vous estimez être un succès dans les actions du président pendant ces 5 années. Puis, nous évoquerons ce qui n'a pas été complètement ou partiellement réussi à vos yeux du moins. Et enfin, de ce qui, à votre avis, sera réalisé dans un futur mandat, parmi les choses ou qu'il n'a pas eu le temps de faire, ou bien qu'il n'a pas pu tout simplement, j'allais dire matériellement, mais enfin, législative ou dans sa propre volonté. Alors, pour le positif, un aparté ce matin, l'effet Macron. J'ai entendu à la télévision qu'il y avait ce qu'ils appelaient donc l'effet Macron pour 1 million de créations d'entreprises.
Absolument.
Alors, est-ce que c'est dû, à votre avis, au confinement, ou bien à la perte d'emploi des salariés se retrouvant au chômage, ou bien au désir de reconversion de beaucoup, ou bien à l'attrait des subventions accordées aux créateurs d'entreprises ?
J'ai envie de vous dire, comme pour beaucoup de choses, je pense que c'est un petit peu de tout ça. Je pense surtout, et c'est là où c'est très intéressant, si on jette un peu un regard sur les années passées, on constate beaucoup de mutations à tous les niveaux de la société. Et à ce titre, le président Emmanuel Macron, je trouve, reflète ces mutations et vraiment, comme on dit, connecté à ce que vit le pays, à ce que vivent les Français. Et je pense que à ce titre, il a été à la fois précurseur, il a su anticiper, mis des choses en place qui permettent d'accompagner ces changements. Et je pense qu'on commence à en voir, en effet, les résultats.
Vous ne dites pas « en même temps ». La fameuse...
En même temps, si vous voulez, écoutez, moi je trouve que cette formule, moi je la fais volontiers mienne, je trouve qu'elle dit quelque chose de cette approche de la complexité du réel, et donc à ce titre, moi je suis très à l'aise avec cette expression, que j'utilise d'ailleurs beaucoup, et comme beaucoup de gens l'utilisent au quotidien aussi, là encore c'est une preuve aussi d'emphase avec ce que vivent les gens, ce que ressentent les gens, ce que veulent les gens. Je pense que le « en même temps » traduit à la fois la période de transition qu'on vit, c'est-à-dire en même temps des choses qu'on va dire du passé qu'on a envie de garder et en même temps des choses nouvelles qu'on doit appréhender et définir. Et puis au quotidien, on est tous confrontés à beaucoup de contradictions dans nos choix et donc le « en même temps » permet souvent de trouver des consensus et c'est comme ça qu'on avance.
Quelques personnes pensent que, en effet, ça peut être aussi cette formule pour un manque de choix.
J'entends beaucoup ça. Écoutez, Bien malin celui qui aujourd'hui a des certitudes sur à la fois la réalité d'aujourd'hui et ce qu'il va arriver demain. Et donc à ce titre, moi je trouve cette accusation à la fois un petit peu facile et sans fondement. Ceux qui la disent en général eux-mêmes ont assez peu de certitudes, ou alors des certitudes qui sont tellement datées qu'elles n'ont plus prise aujourd'hui. Et ça les Français à mon avis l'ont bien identifié depuis quelques années. Donc il faut savoir avancer avec une certaine agilité, une grande humilité, parce que effectivement, certaines convictions peuvent se révéler fausses. Il faut savoir l'identifier et ajuster en fonction. Et puis avancer avec, malgré tout, moi je vais vous dire, ce qui à mon avis compte aujourd'hui, c'est le courage, parce que il faut prendre des décisions, l'audace, et puis quand même des valeurs qui nous guident. Mais aujourd'hui, avoir des certitudes, je pense que c'est prendre le risque de ne pas savoir appréhender les fameuses mutations du moment.
Est-ce que vous pensez aussi que les erreurs ne sont pas toujours négatives et qu'on apprend de ces erreurs ?
Mais absolument, absolument. C'est valable pour le président comme pour n'importe lequel d'entre nous.
Oui, sauf que pour le président, ça a quand même d'impact
bien sûr.
Sur la suite des événements.
Mais là aussi, je trouve que c'est très intéressant. Le regard qu'on peut avoir sur les années passées, notamment la gestion de la crise sanitaire. On reproche beaucoup de choses, mais c'est comme jouer au loto une fois que les résultats sont tombés.
Ça serait pas mal, ça, effectivement.
En effet, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que, honnêtement, beaucoup de Français peuvent regarder la gestion de cette crise avec, j'allais dire, la conviction, revenir sur ce qu'on venait de dire à l'instant, que quand même, des choses ont été faites, et lorsqu'elles n'ont pas été bien faites, elles ont été ajustées, et elles ont été entendues. Voilà. Et encore une fois, cette humilité face à des changements immédiats, à beaucoup d'imprévisibilité, je pense que justement, on a la chance d'avoir aujourd'hui un président qui est jeune, dynamique, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, et qui a 5 années maintenant d'exercice du pouvoir, et je trouve que c'est très rassurant de pouvoir espérer appréhender les prochaines années avec cette expérience et ce dynamisme, ce fameux en même temps.
Pour vous, donc, cette expérience des 5 années est positive ?
Absolument. Alors évidemment, tout n'a pas été bien fait, des choses n'ont même pas pu être faites. Je pense que tout le monde reconnaîtra que ces 5 années ont été particulièrement agitées pour notre pays, mais je pense que ce climat ambiant, cette incertitude sociale et politique traduit justement ces mutations. Et donc, dans cette tempête, avoir un capitaine qui a la main fermement posée sur la barre et qui quand même a la volonté d'avancer, je trouve que c'est très rassurant.
On lui a reproché aussi quelques personnes de son entourage au fil des mois de cette pandémie. Monsieur Véran est effectivement peut-être contesté, ou Monsieur Castex. Il y avait une espèce de consensus avec Monsieur le maire. Est-ce que vous pensez que c'est avec toutes les solutions qu'il a trouvées pour aider les entreprises au creux de la vague? Et peut-être le peuple français lui sait gré de cela?
Incontestablement, je pense que la réponse économique à cette crise, elle est saluée par tous. Et donc à ce titre, effectivement, peut-être que ça rejaillit peut-être plus sur le ministre de l'économie que sur d'autres. Néanmoins, l'économie, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de nous. Donc, ce qui n'est pas le cas de l'épidémie. C'est le virus qui commande. Donc à ce titre, on est beaucoup plus dans la réaction. Et donc, les décideurs, les responsables politiques ne soient pas populaires par les décisions qu'ils prennent, qui nécessairement parfois sont impopulaires, hein, quand on confine un pays, rarement on applaudit. Hein, donc, néanmoins, c'était nécessaire. Et après coup, je pense que beaucoup aussi soulignent que les efforts qui ont été faits, d'ailleurs ça a encore été dit ce matin par certains épidémiologistes sur cette fameuse 5e vague, ce qu'on constate, c'est qu'elle est aussi moins forte que prévue de par la discipline dans les gestes barrières des Français, et qui a été notamment, je pense, le résultat d'un rappel qui a été effectué en ce début d'année en disant voilà, c'est de la responsabilité de chacun. Et ça, les Français ont prouvé qu'ils pouvaient l'entendre et prendre leur part. Et donc chacun doit prendre sa part. Les décideurs, qui prennent des décisions parfois impopulaires et qui en subissent du coup l'impopularité, mais qui est souvent temporaire d'ailleurs, pour à terme avoir aussi la reconnaissance d'avoir su prendre les décisions en responsabilité au moment où il fallait les prendre. Et vous savez, la représentation politique qui est aujourd'hui beaucoup critiquée dans son principe même, je pense qu'elle doit retrouver aussi une certaine légitimité, parce qu'à la fin, il faut quand même que des gens décident, c'est pas les décisions faciles à prendre, et heureusement qu'on a en ce moment, en tout cas, des gens qui sont à la hauteur.
Alors ça, c'était un choix. Le quoi qu'il en coûte va coûter combien, finalement?
Écoutez, je pense que les Français sentent bien que c'est effectivement... Ça va être un des sujets, je pense, de cette campagne présidentielle. Moi, je peux vous dire deux choses. La première, c'est que personne ne conteste que ces dépenses, il fallait les faire. Et la vitalité de la reprise française témoigne que c'était la bonne chose à faire. Ensuite...
Quelles sont les prévisions, là, actuellement pour,
Écoutez, le ministre, justement, des Comptes publics, Olivier Dussopt, a annoncé hier que la réduction des déficits publics était nettement plus positive que celle qui était anticipée. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça va être moins grave
moins
que...
Moins pire.
Voilà. Donc, et ça, c'est pas le fruit du hasard non plus. C'est aussi bien... Une gestion qui est quand même sérieuse des deniers publics, mais c'est surtout une politique tournée vers la croissance économique, vers le développement. Et justement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va être en capacité, d'après les prévisions, entre guillemets, d'absorber ces dépenses exceptionnelles, non pas par forcément de l'impôt supplémentaire, mais par une croissance économique qui va permettre justement de rétablir les finances publiques. Et donc là encore, c'est une approche qui, à mon avis, est à la fois moderne et efficace, parce que jusqu'à maintenant, la facilité a toujours été d'augmenter les impôts. Je rappelle que dans ces 5 dernières années, les impôts n'ont pas augmenté, ils ont même drastiquement baissé, que ce soit pour les entreprises ou pour les Français.
Pour les Français, avec la disparition de la taxe d'habitation?
Notamment, mais pas que. Donc la taxe d'habitation, c'est évidemment une grande mesure qui arrive à son terme au bout du quinquennat, qui montre ses effets. J'en profite pour dire, en tant qu'élu au conseil municipal, que cette réforme est sans effet sur les finances locales, puisqu'elle est intégralement compensée par un changement de fiscalité.
À l'euro près?
À l'euro près. Et non seulement à l'euro près, mais en plus, la dynamique qui a été installée, qui est valable pour les communes, les départements ou les régions, fait qu'en quelque sorte, non seulement on allège le poids sur les contribuables, sans dégrader les finances des collectivités, mais en plus, on a maintenant des ressources qui sont dynamiques, c'est-à-dire basées sur la croissance. Donc plus l'économie se développe, plus les collectivités percevront de ressources. Donc encore une fois, ce quinquennat a été un 5 années au service du dynamisme et de l'autonomie des collectivités.
Le sujet de la réindustrialisation est sans doute crucial. Mmh. Pensez-vous que M. Macron va arriver à réindustrialiser le pays?
J'ai envie de vous dire, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que, et là encore, c'est pas de l'incantation, ce sont des faits. Pour la première fois depuis plusieurs années maintenant, la France crée plus d'emplois industriels qu'elle n'en détruit. On a une croissance de l'emploi industriel en France. Pour un territoire comme Dreux, c'est quand même un signe d'espoir. Deuxièmement, on l'a encore vu, le nombre de créations d'entreprises a doublé ces 5 dernières années. On est cette année à 1 million de créations d'entreprises. C'est du jamais vu.
Oui, c'est ce que je disais en préambule. Maintenant, le tout est de savoir pourquoi et quelles industries sont en train de se réinstaller ou de s'installer en France.
Là, l'élection présidentielle, à mon avis, est très, très utile. On est à un moment vraiment charnière. C'est-à-dire que on a un pays qui... malgré les nombreuses crises qu'il a traversées, malgré un malaise qui est très profond et qui date de plusieurs décennies maintenant, eh bien malgré tout cela, on a un pays qui, ces dernières années, a solidifié des acquis, a su miser sur des secteurs d'avenir. On commence à en voir les résultats. Et j'ai envie de vous dire, on est maintenant au moment du choix ou en tout cas de la réflexion collective sur la définition du modèle qu'on veut suivre et s'appliquer à nous-mêmes pour les prochaines décennies. En fait, on en est là.
Quel est ce modèle?
Eh bien, on commence à en dessiner quelques traits. Par exemple, la mobilisation exceptionnelle sur le climat. On voit bien aujourd'hui que l'écologie est un élément absolument clé, transversal et très attendu par les citoyens. On peut sans nul doute imaginer que le modèle économique des prochaines années intégrera en son centre la dimension écologique. Ça, c'est à mon avis absolument fondamental. On voit bien aussi, notamment du point de vue des jeunes générations, et ça, je trouve ça très intéressant, il y a aujourd'hui des débats.
Une prise de conscience générale, certainement.
Alors oui, sur l'écologie, mais aussi sur des valeurs plus sociétales, plus humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la jeunesse à une soif d'égalité, à une soif aussi de liberté individuelle. La question de l'identité individuelle multiple est vraiment centrale. Il y a une intolérance à toute forme de discrimination. Et je pense que sur ces sujets-là, entre guillemets, la dynamique à l'ancienne ne reviendra pas en arrière. Ces cinq dernières années, avec le mouvement MeToo par exemple, ont bien démontré un changement très profond du regard sur l'égalité homme-femme. Là encore, je pense qu'on ne reviendra pas dessus, ou bien au contraire. Et donc, ces cinq années ont là encore été utiles à ce niveau-là pour progresser sur les droits. Il y a des nouveaux droits qui ont été acquis. Il faut poursuivre. Ça, je pense que ça fera partie du logiciel de ce que la France attend pour les prochaines années. Sur le plan économique aussi, on voit bien que les comportements de consommation ont profondément changé.
Bien sûr, la société se transforme et je voudrais faire intervenir le wokisme là-dedans. Parce que vous parlez des choses qu'il faut rétablir, enfin, des progrès qu'il y a avec... mais vous parlez des minorités ou...
Aujourd'hui, la question de l'identité, elle est revenue sur le devant de la scène, mais à mon avis, on n'en retient que le côté un petit peu spectacle de la question du racisme, de l'identité séculaire de la France. Bon, soit,
mais... Et le wokisme ?
Mais le mouvement est beaucoup plus profond. Pour moi, l'identité, c'est comment aujourd'hui, dans un monde, là encore, qui est en profond changement, on parvient à être à l'aise avec à la fois la complexité de la vie de chacun. Je suis persuadé que nous sommes tous faits d'identités multiples. Et donc, il faut savoir conjuguer avec cette variété d'identité et en même temps, de savoir où est-ce qu'on est. On a besoin d'être enraciné quelque part. Et donc, maîtriser l'histoire de la France, maîtriser la place et le rôle que joue notre pays dans ce monde.
Et la culture dont parlait M. Macron ?
La culture, elle est à la fois transversale, permanente, et là encore, individuelle. Chacun a sa perception de la culture française également. Et c'est vivre cette culture qui compte. Donc, ce qu'on demande à la société, c'est de former des citoyens qui soient autonomes, qui soient capables d'esprit critique, de forger leurs opinions dans les valeurs de la République, parce que ce sont les valeurs de la République qui nous permettent de vivre ensemble et de nous projeter vers l'avenir en solidarité. Et ensuite, chacun doit aussi vivre et composer avec les multiples facettes de son existence. C'est valable pour parfois des multinationalités, le rapport à la pratique religieuse, le rapport à toutes les discriminations qu'on peut subir dans le monde professionnel, les identités sexuelles, de genre. Vous voyez, il y a tout un tas. Au quotidien, on est 1000 personnes.
Selon l'édito du journal Le Point, la France serait le dernier rempart contre la cancel culture. Pensez-vous que le président souhaite aussi ce rempart ?
Moi, je veux dire, j'ai pas très bien compris ce mouvement. La cancel culture, là encore, ça traduit une inquiétude.
Une inquiétude et un reniement, non ?
Eh bien, justement, c'est là où il faut savoir garder son sang-froid et affirmer certaines valeurs collectives. Moi, je ne crois pas du tout qu'on avance sereinement vers un avenir commun en reniant ou en refoulant une partie de son passé. Il faut tout assumer. De toute manière, ce passé, il est là. Il est là. Et donc, il ne faut pas laisser les humeurs et les contextes d'un jour rayer d'un trait de plume des éléments qui sont fondateurs. Même les pires moments de l'histoire française forgent notre histoire, notre culture et notre cohésion nationale. Il y a dans l'histoire de France des figures qui sont parfois lumineuses et d'autres plus sombres. Mais c'est cet ensemble.
Mais vous pensez que de toute façon, elles sont incontournables ?
Mais bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire... Elles sont là, encore une fois. Elles ont existé, on ne va pas revenir dessus. On n'est pas là pour réécrire l'histoire et faire le tri. On est là pour regarder avec lucidité ce qu'il s'est passé et en tirer les leçons. Qu'est-ce qu'on veut garder pour construire l'avenir ? Et donc, pour aussi juger de ce qui a de la valeur, il faut aussi toucher du doigt les fois où on s'est égaré.
Nous passons à un autre sujet, enfin, si l'on peut dire. Emmanuel Macron a affirmé avoir envie de se représenter. Brigitte Macron ne dit pas non. En fait, plus personne, à la vérité, ne doute de son intention. Qu'en pensez-vous ? Vous le souhaitez, naturellement.
Alors oui, je le souhaite. Parfaitement conscient que c'est une décision personnelle, parce que l'élection présidentielle est une élection très personnalisée, donc il lui appartient de prendre sa décision. Moi, je crois tout à fait qu'il se pose encore la question, pour tout vous dire, parce que...
Malgré les sondages.
Bien sûr. Plus que jamais, gérer un pays en pleine crise sanitaire demande quand même à la fois un investissement total, et c'est quand même une charge très très lourde. Donc, je comprends qu'on réfléchisse avant de s'engager à nouveau. Néanmoins, le jour où il prendra sa décision, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça interviendra, mais ça voudra dire que... il s'engagera pleinement aussi dans un débat envers les Français, avec les Français. Et donc, étant donné la situation actuelle, je parle de la crise sanitaire, ça me semblerait quand même assez périlleux de mélanger les genres. Donc, on voit bien que là, la cinquième vague, on est un petit peu au cœur du sujet. Les épidémiologistes nous disent que d'ici quelques semaines, on aura une meilleure visibilité en espérant une décrue. Eh bien,
on attend le printemps avec impatience.
On attend le printemps, absolument. Mais je pense que ce serait beaucoup plus sain pour tout le monde d'être dans un climat sanitaire plus apaisé pour envisager cette élection présidentielle. Et d'après les prévisions, on devrait arriver à un moment assez proche où il y aura plus de place aussi dans les... Je ne crois pas du tout que les Français aujourd'hui aient la tête à l'élection présidentielle là aujourd'hui. Tout le monde connaît le calendrier. Vous savez, moi je suis partie de ceux qui pensent qu'il faut prendre le temps du débat. Néanmoins, un débat de qualité peut se tenir dans un temps restreint. Pas besoin d'y passer.
Justement, j'allais vous poser la question parce que,
aujourd'hui,
en fait, la campagne de parrainage sera close le 4 mars.
Oui.
Et en fait, dans 12 semaines, c'est l'élection.
Oui.
Alors, Monsieur Sarkozy avait annoncé sa candidature le 15 février 2012, Monsieur Chirac le 11 février 2002, et donc le mois de février paraît particulièrement visé par toutes ces déclarations de candidature. Mais comme vous le disiez, peut-être on peut avoir un débat plutôt restreint, mais dans le temps, je veux dire, mais quand même, il faut que ce soit absolument flamboyant dans ce cas-là, parce qu'il faut que les idées se frottent les unes aux autres.
Bien sûr.
Et sereinement, si possible. Mais bon, il a déjà fait une campagne, donc il sait ce qui se passe.
Écoutez, moi, je pense que... les Français, malgré ce qu'on peut lire dans certains sondages, je pense que les Français vont se saisir de cette élection présidentielle. C'est toujours un moment pour une nation, voilà, de se retrouver avec elle-même, de se poser quelques questions fondamentales et d'arbitrer des choix. Et donc les Français le feront, j'ai aucun doute là-dessus.
On dit qu'à la présidentielle, c'est le moment où il y a le moins d'abstention.
Oui, en effet. Après, on constate ces dernières années une tendance nette et solide à la hausse de l'abstention. Les dernières élections régionales, il y a un an, en témoignent encore une fois avec un nouveau palier de franchi. Ça doit nous interpeller. Moi, je pense que l'un des enjeux majeurs de cette élection présidentielle, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes parce que il y aura des primo-votants cette fois-ci. Il y aura des choix, comme on l'a dit, fondamentaux pour les prochaines années à prendre, sur des sujets qui les concernent au premier plan, la transition écologique, évidemment, la transition de notre modèle économique, également, la question de la formation, la question aussi de l'émancipation, la question aussi de la conquête de nouveaux droits. Il y a beaucoup de choses qui doivent se réinventer, et ça ne peut pas se faire sans ceux qui vivront dans ce monde dans les prochaines années. Donc moi, j'espère vraiment que ce débat sera de qualité et tourné aussi vers la jeunesse, que la jeunesse saura aussi s'en saisir. Elle en est capable, elle l'a prouvé ces dernières années, notamment sur la mobilisation climatique. C'est aussi, je pense, aux candidats et à travers eux aussi, à leurs militants, à leur formation politique, de créer les conditions d'attrait pour les jeunes, aussi bien sur les idées que sur les modes de campagne. Je pense qu'il faut aussi être innovant. Mais je demande vraiment à ce que cette élection présidentielle soit un moment de rencontre entre un projet pour le pays et la jeunesse.
En fait, vous parlez de la jeunesse française, bien entendu, mais peut-être il faut étendre la question également aux autres pays.
Je pense que vous avez raison. Vous avez raison parce que au mois de janvier, là, nous vivons pour les 6 prochains mois la présidence française de l'Union européenne. C'est absolument pas négligeable. Ça veut dire que la France va dicter l'agenda des institutions européennes pour les 6 prochains mois.
Elle peut provoquer des réunions, donc.
Absolument. Et elle peut mettre à l'ordre du jour des sujets qu'elle veut pousser comme prioritaires.
Et les autres pays sont obligés d'en débattre ?
Absolument. Absolument. C'est le privilège de cette présidence tournante. Et la France a prouvé par le passé que lorsqu'elle avait entre ses mains cette présidence, elle savait en faire quelque chose. Et je ne vous cache pas que les autres pays regardent et attendent de cette présidence française un dynamisme. La France a la capacité d'influer sur la politique européenne. Et donc, les prochaines semaines vont nous dire aussi l'espace de transformation qui est à notre disposition. Et à ce titre, la jeunesse européenne est absolument fondamentale parce que c'est une jeunesse qui aujourd'hui, si on regarde à l'échelle du monde, qui est certainement la plus formée, certainement la plus ouverte aussi aux idées démocratiques, aux idées d'émancipation, à tout ce socle de valeurs humanisme et de progressisme qui sont vraiment caractéristiques de l'identité européenne, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et donc, si on revient par exemple au changement climatique, là, l'Europe doit être absolument à l'avant-garde. Et sa jeunesse doit être le fer de lance et aussi le levier d'interpellation des décideurs politiques. Et
donc, elle se rencontre, cette jeunesse.
Elle se rencontre. Alors,
Erasmus,
bien sûr, qui d'ailleurs, ces dernières années, s'est développé, s'est élargi. Aujourd'hui, les apprentis peuvent faire Erasmus. Il y a aussi des programmes pour les lycéens. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Tout le monde sait aujourd'hui que l'expérience du séjour de longue durée à l'étranger est absolument fondamentale dans la forge d'une identité, d'une ouverture d'esprit qui ensuite donne des leviers de développement personnel et professionnel très importants. Toutes les expériences, tous les retours d'expérience le démontrent. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin sur ces échanges. Mais il faut aller aussi beaucoup plus loin dans la force d'une identité commune européenne que la jeunesse peut porter, puisqu'en fait, elle en est déjà dépositaire. Il y a des valeurs qui aujourd'hui transcendent les frontières, qui réunissent des jeunesses de pays différents. Et donc ça, c'est porteur d'espoir pour l'avenir. Et en même temps, ça doit nous interroger sur la place à donner à la parole de la jeunesse dans la décision politique. Vraiment, je pense que c'est l'enjeu des prochaines années, c'est le niveau d'intégration de la jeunesse dans la définition des prochaines politiques. Et ça passe par l'élection.
Donc vous pensez que la jeunesse est l'espoir de l'Europe et de la France?
Tout à fait.
Merci Maxime David d'être venu dans ces studios. Je suis ravie de vous avoir reçu et nous nous reverrons bientôt naturellement pour commenter les résultats des élections présidentielles. Roland Richard a enregistré cette émission et la réalisera pour vous, chers auditeurs. Au revoir Maxime.
Au revoir et merci à vous.
Au revoir chers auditeurs. Thank you.